Vous écoutez France Culture.
Merci Caroline Brouet, merci Hervé Gardette et à demain, même lieu, même heure, 13h30, vous écoutez France Culture et c'est le moment de retrouver les pieds sur terre pour la suite de notre semaine nature chasse et pas beaucoup de pêche aujourd'hui, l'histoire d'un agent patrimonial.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Bougez pas, attention.
Les pieds sur terre, une émission proposée par Sonia Kronlund.
Ne vous appelez pas, c'est des manifestants, mais la rue est envahie de pourquoi.
Et pourquoi on le ferait pas plus souvent? On pourrait le faire tous les jours, on pourrait le faire 10 fois par jour, 20 fois par jour.
On va prendre les outils de base du forestier. Alors le compas forestier, c'est ni plus ni moins qu'un grand pied à coulisse, hein, c'est pour mesurer le diamètre. Et le marteau. Le marteau, c'est l'outil qui nous sert à marteler les arbres, ce qui veut dire que le bois peut être coupé. C'est un arbre qui donnera jamais rien, qu'il faudra enlever. Mais je vais attendre encore un peu, c'est un peu prématuré celui-là. Auparavant, on travaillait pour la qualité de la forêt. Maintenant, on travaille avec un tableau de bord et un objectif à tenir. Le forestier de terrain, lui, travaille pour les forêts dans 120 ans. Le forestier, dans la hiérarchie, il travaille pour son objectif annuel. C'est ça la grosse différence.
Cela se passe dans le Jura, au cœur de la forêt où travaille Jean-Loup Audy, agent patrimonial. Le terrain est vallonné, il reste un peu de neige et il ne fait pas bien chaud. Cela se passe au milieu des bois, mais on pourrait être à la Poste ou chez EDF ou encore chez France Télécom. Car Jean-Loup et les autres ex-gardes forestiers racontent étonnamment la même histoire qu'on dirait avoir entendue 100 et 100 fois, mais qui fait tout de même le drame de milliers d'agents territoriaux, patrimoniaux et autres agents de liaison un peu partout en France. En gros, voilà qu'on demande aux gardiens de nos forêts mystérieuses et insondable, plus de rendement, c'est-à-dire plus de bois, avec moins de personnes pour le couper. Avec la révision générale des politiques publiques, avec le non-remplacement d'un départ à la retraite sur deux, avec la compression des moyens et une demande de rentabilité immédiate, on a là le parfait cocktail du mal-être des fonctionnaires d'aujourd'hui, mais qu'on ne s'attendrait vraiment pas à rencontrer au milieu des bois. Le 11 janvier 2011, d'ailleurs, l'Office national des forêts a reconnu comme imputable au service, le suicide d'un des agents. C'était une première pour cet établissement public où beaucoup de salariés disent endurer une souffrance éthique. De 2003 à 2010, la direction a dénombré 23 suicides. Jean-Loup tente donc aujourd'hui d'expliquer comment on peut en arriver là après être devenu des VRP mobilisés pour le succès de la filière bois. En tout cas, c'est ce qu'il dit jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, évidemment.
Je m'appelle Jean-Loup Audy, je suis agent patrimonial dans le Jura. Il y a longtemps, c'était garde forestier. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les gens nous appellent toujours garde. Alors garde, comment ça va garde? Et maintenant, on est agent patrimonial, donc c'est un beau nom, agent patrimonial. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On s'occupe du patrimoine. Et malheureusement, on s'appelle agent patrimonial maintenant, mais on fait de moins en moins le gardien du patrimoine. Alors aujourd'hui, je m'exprime en tant que, avec la casquette de délégué syndical, parce que je ne peux pas m'exprimer en tant que personnel ONF. On a un devoir de réserve. La communication à l'ONF, comme dans d'autres entreprises et chez d'autres services publics, est verrouillée par la hiérarchie. Ce n'est pas bien vu de critiquer l'entreprise dans laquelle on travaille. Et pourtant, c'est plutôt une critique constructive. Hein. Si on se permet de critiquer notre entreprise, finalement, puisque c'est une entreprise maintenant, c'est parce qu'on est très attaché au travail qu'on fait et c'est parce qu'on voit que les missions qu'on nous demande, les objectifs qu'on nous assigne, ont tendance à être de plus en plus difficiles à atteindre. Et les gens ont de plus en plus de ressentis, il y a de plus en plus de problèmes. Bon, on a des collègues qui sont en souffrance, qui dépriment, c'est difficile. On a une chance, c'est qu'on a la forêt, donc quand la pression est forte, on peut se sauver, on est tout seul. heureusement, la forêt est là.
On est dans un tout petit village avec quelques maisons en plein milieu de la forêt.
À 500 mètres à vol d'oiseau de la maison, il y a la première parcelle. Et au fond du plateau, il y a l'essentiel de mon triage. La majorité de mes forêts se trouve là-bas.
Là, vous m'emmenez voir votre forêt ?
Ben oui, avec plaisir, on va aller faire un tour. On va aller voir deux, trois beaux lieux. Oh, c'est vraiment le village traditionnel. Ici, c'est quand même très... c'est agricole et forestier. Hein. Il y a si peu d'autres choses. Mais moi, enfin, c'est joli. Ça. Voilà, il y a quand même un bon quart d'heure de route. Hein.
Alors, on arrive sur un tout petit chemin enneigé.
Voilà, il n'y a pas beaucoup de neige, c'est symbolique, hein. C'est juste pour dire qu'il y a un petit peu de blanc, qu'on est dans le Jura en hiver. Mais... Donc voilà, là on arrive dans mes forêts, entre guillemets, c'est pas vraiment les miennes, mais quand on va chez un collègue, on lui parle de ses forêts, quoi. On ne parle pas de la forêt communale de X ou Y. Quoi. Bon, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais le fait de se les approprier... Je pense que c'est positif parce qu'on justement on fera pas des choses dans ces forêts-là qui nous plaisent pas ou qui sont contre nos valeurs. Quoi. On n'a pas envie de tout couper pour faire plaisir, pour remplir un objectif. On n'a pas envie de programmer des travaux dont la forêt peut se passer, etc. C'est vrai qu'on est attaché. On est attaché. À chaque parcelle, il y a certains endroits qu'on préfère à d'autres. Il y en a. Bon, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis là. On voit les forêts évoluer. Finalement, c'est vraiment positif. C'est une satisfaction, quoi. Oh, il y a un beau point de vue. On peut aller jeter un coup d'œil, si vous voulez. Moi, je le connais, mais je m'en lasse pas. Je suis né en ville et puis je me suis longtemps posé la question de savoir ce que je voulais faire, de savoir quelles études je voulais mener. Et puis finalement, je me suis aperçu que ce qui m'intéressait, c'était bosser dans la nature. Quoi. C'était ça. Je voulais bosser dehors. Et donc, en cherchant, j'ai trouvé ce métier de garde forestier. J'ai fait un stage avec un garde et là, ça m'a tout de suite emballé. Et après, j'ai pas changé d'avis, quoi.
Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers moments en forêt avec lui ? Qu'est-ce que...
Ben la première fois, c'était le fait qu'il connaisse tous les arbres, comme ça, qu'il m'apprenait. Il me parlait des oiseaux, il me parlait vraiment. Et puis, c'était du concret, quoi, parce qu'on allait marquer des arbres, on marquait une coupe. C'est ce qui est bien dans le métier de forestier, c'est qu'on n'est pas seulement contemplatif. Hein. Je dirais, pour être trivial, c'est pas que le derrière dans la mousse et écouter les petits oiseaux. Hein. C'est pas seulement ça, c'est pas juste le forestier contemplatif. On est aussi acteur, hein. on transforme un petit peu les forêts pour essayer de les embellir, les rendre meilleures. Et il y a les relations avec les ouvriers, avec les bûcherons, enfin voilà, tout ça, c'est intéressant, quoi. Et puis il y a aussi des moments de solitude et voilà, on arrive, voilà, c'est assez, il y a un panel assez large finalement. Il y a des jours où je vois personne, mais si c'est une, deux, trois journées ou même une semaine, ça ne me dérange pas. C'est une histoire d'habitude, hein. Et puis de caractère peut-être aussi, sûrement même. Moi ça me convient, j'aime bien, j'apprécie la compagnie énormément, mais j'aime aussi me retrouver seul, donc seul, et puis j'aime pas trop le bruit, c'est vrai, il faut le dire aussi, donc ici ça va, ça me convient parfaitement.
Là on a un croisement, il y a chemin du chamois, chemin du creux d'enfer... Mais vous n'avez pas besoin des panneaux, vous, pour savoir où vous êtes.
Non, ça va, non. Bah, j'en ai eu besoin au début, mais là, cette fois, c'est bon. Et bien, surtout, ici, c'est plus facile, parce qu'il y a quand même un relief qui est marqué. Hein. C'est tout en creux en bosse, c'est des montagnes russes. Donc, on a des repères visuels un peu partout. Hein. Un rocher qui dépasse, une combe, etc. Ou des fois, un bois exceptionnel qu'on connaît, pop-up. Ici, là, j'aime bien ce coin-là, en plus...
Il y a un beau mélange, hein. Il y a des beaux épicéas devant nous, des beaux érables, il y a de la jeunesse, ça pousse. Là, ça me plaît, moi. Il y a une date qui résonne mal pour les forestiers, c'est 2002. Quoi. L'État et l'ONF ont décidé de faire une grande réorganisation. D'énormes suppressions de postes, hein, assez importantes. Et un changement de nature de nos missions, un petit peu. Hein. Alors qu'auparavant, on était vraiment agent patrimonial, qu'on s'occupait du patrimoine. Maintenant, on a des objectifs et il faut rapporter de l'argent, etc. Ce besoin d'argent, hein, pour équilibrer les finances de l'ONF, il se fait sentir le plus, c'est au niveau des coupes. Donc, il y a un contrat qui a été signé 2002-2006, si je me rappelle bien, qui demandait déjà d'augmenter les récoltes. Le contrat 2006-2011, il fallait encore augmenter la récolte. Et là, on prépare le prochain contrat, il faudra encore l'augmenter. Je ne vais pas donner de chiffres, mais c'est quand même dans des proportions relativement importantes. Et comment augmenter la récolte ? Eh bien, ça veut dire en tapant plus de bois et en récoltant des arbres de plus en plus petits. Et il y a un paradoxe assez important, le Grenelle de l'environnement, le slogan qui était affecté à l'ONF, à la Forêt Générale, c'était « produire plus tout en préservant mieux la biodiversité ». Et là, le paradoxe est quand même assez flagrant, puisque la biodiversité, on sait qu'elle se trouve, les deux tiers de la biodiversité, c'est dans les gros arbres ou les très gros arbres, puisqu'il y a des oiseaux, des insectes, etc., qui se développent qu'avec des gros arbres, hein, gros pieds, grosses branches, etc., qui ont des particularités à eux. Et si on veut réduire les diamètres d'exploitabilité, on va avoir une perte de la biodiversité très importante, quoi. Ah, effectivement, on va réussir à produire plus, on va réussir à couper, mais c'est un peu une fuite en avant aussi. Parce que dans un premier temps, on va récolter des très gros arbres, hein, on va couper un peu plus. Et dans un deuxième temps, quand les plus gros arbres ils feront 60, ben, qu'est-ce qu'on fera ? On ne pourra pas aller plus loin, on ne pourra pas toujours couper plus, couper plus, couper plus. La fin est proche, quoi. Hein. C'est vrai que, voilà, moi j'ai que de la forêt communale, je n'ai pas les mêmes pressions par rapport au volume de bois à couper, etc. Puisqu'on a un aménagement, on a une commune qui prend une délibération derrière, donc on n'est pas tout seul hein, à prendre des décisions. Quoi. J'ai plus de mal à le vivre quand je vais des fois marteler des coupes chez les collègues où on me dit « tac, il faut couper, il faut couper ». Néanmoins, on est assez solidaires au sein de l'équipe et on a quand même des visions assez proches de la forêt. Et, si on a décidé de ne pas marquer plus de bois, pour le moment, on ne le fait pas. Quoi. Il n'y a pas longtemps, on était dans le martelage d'une forêt du secteur. Arrivé au bout, le chef a dit « il n'y a pas assez, on va pas atteindre l'objectif qui est assigné à cette parcelle, faut taper plus ». Personne n'est allé dans son sens, on a dit « non, nous, on va pas taper plus, parce que si on tape plus cette fois-là, si on tape la même chose dans 10 ans, la parcelle elle est aux trois quarts rasée ». On dit « nous, on ne veut pas prendre cette responsabilité-là, on marque ce qu'on doit marquer, et si on n'atteint pas le volume, ce n'est pas de notre faute ».
Vous avez refusé de le faire ?
Oui, on a refusé. Et bon, il a pas insisté énormément. Même s'il avait insisté énormément, on l'aurait pas fait. Je sais qu'il y a d'autres chefs qui insistent pour qu'il y ait plus de bois tapé, qu'il y a des collègues qui ont moins de facilité à résister parce qu'il y a peut-être moins collectif, moins ça se passe. Après, on réagit pas tous de la même manière à la pression. La parcelle qu'on a devant vous, on vient de marquer la coupe en fait. Hein. Donc on a parcouru l'ensemble de la parcelle en équipe. Et donc là, l'arbre qu'on voit devant nous, là, cet épicéa, hein, on voit une marque sur le tronc. Et c'est le signe pour un bûcheron ou pour un marchand que cet arbre doit être coupé. Donc là on voit que c'est un petit peu serré. Hein. Il y a quatre tiges qui sont l'une sur l'autre. Donc celui-là, il est enlevé pour profiter un petit peu aux voisins. Quoi. Le souci, c'est que maintenant, on a des supérieurs qui changent beaucoup de postes. Avant, nos chefs, mes premiers chefs, ils sont restés longtemps. Il y en a qui avaient fait 20 ans au même coin, 10 ans, 15 ans. Ils avaient le temps de s'imprégner des forêts, de connaître les élus, de discuter avec eux. Quand on connaît les gens, on ne réagit pas du tout de la même manière. Maintenant, on a des directeurs, des supérieurs qui tournent en moyenne tous les 5 à 7 ans à l'ONF. Donc, ils n'ont pas le temps de s'attacher aux forêts, ils n'ont pas le temps de s'attacher aux gens. Et donc, on n'a pas vraiment la même vision des choses. Mon objectif, c'est pas de me sauver comme un voleur, de couper les bois et puis de partir, quoi. Auparavant, on travaillait pour la qualité de la forêt. Maintenant, on travaille avec un tableau de bord et un objectif à tenir. Le forestier de terrain, lui, travaille pour les forêts dans 120 ans. Le forestier, dans la hiérarchie, il travaille pour son objectif annuel. C'est ça la grosse différence. La plupart, ou même quasiment tous mes collègues, ont vu leur surface augmenter, hein, puisque en 2002, au fur et à mesure des départs en retraite, les postes étaient supprimés et les collègues ont récupéré des surfaces supplémentaires, quoi. On a récupéré des missions en plus, des surfaces en plus, du travail administratif en plus et avec moins de temps finalement pour réaliser plus de tâches. Ce n'est pas des forêts où il y a beaucoup de... La faune est assez discrète, hein, parce qu'il y a un petit peu de chevreuil, un petit peu de chamois, lynx, tétra et gelinotte. Voilà, c'est trois animaux plutôt rares et qu'on est content de rencontrer, même si ça n'arrive pas tous les jours. Il y a 2 ans, j'ai vu un lynx qui est à 15 mètres de moi. Et là, ça, c'est une image qui restera gravée. Je l'ai vu pendant 40 minutes à entre 15 et 25 mètres de moi. Je marchais sur une route forestière et lui devait être en contrebas, donc c'est pareil, c'est une route où il y avait un peu de pente. Hein. Il devait être en contrebas. Quand il m'a entendu, il a sauté sur la route, il a couru et ensuite il est monté dans une zone de falaise sur le côté. Donc quand j'ai vu ça, j'ai couru pareil pour essayer de l'apercevoir. Je me suis dit avec un peu de chance et en fait, il était monté sur un surplomb. Et il s'était posé assis sur une souche et il bougeait pas, il était immobile. Et je suis arrivé juste en dessous, quoi. C'était vraiment une belle rencontre. Ça fait partie des bons côtés du métier, quoi.
Est-ce qu'il y a des espèces, des arbres préférés, des choses que vous...
Ah non, justement, moi, ce que j'aime bien, c'est le mélange. Non, je peux pas dire que j'ai une essence d'arbre que je préfère aux autres. J'aime bien l'érable parce que c'est un beau bois. C'est vrai que c'est un bel arbre. Il est joli à l'automne. C'est un arbre qu'on vend bien. Peut-être l'érable, mais c'est même pas sûr. Ce que j'aime bien aussi, c'est ce qu'on appelle les morbois finalement. Les morbois, c'est tous les arbustes, c'est tous les... Ce que généralement les forestiers regardent pas ou ça les gêne, c'est plus de la souille qui gêne les semis. Là, on a de l'aubépine, des noisetiers, les prunelliers. Ben, la forêt, c'est un tout, c'est un écosystème complexe. Il n'y a pas que les gros arbres qui ont de l'importance, quoi. Hein, moi, je me rappelle mes études où tout au début, on me disait toujours la forêt a trois fonctions principales. La production, mais il y a aussi l'accueil du public, la récréation en général, et puis la protection, quoi. Donc protection des sols, protection des ressources en eau aussi, hein, protection dans les terres en pente, etc. Et malheureusement, maintenant, on aurait tendance à focaliser sur la production, parce que la production, ça rapporte de l'argent, les autres fonctions de la forêt ne sont pas rémunérées. L'accueil du public, auparavant, on en faisait... Pourtant, ça fait bien partie, ça devrait faire partie d'un service public, hein, d'expliquer pourquoi on coupe, pourquoi... Parce que à chaque fois que j'ai fait ces visites, c'était avec des citadins. Et une des premières questions que je posais régulièrement, c'était « Est-ce que c'est bien de couper les arbres ?» Alors tout le monde, ah, « Non, il ne faut pas couper. » Effectivement, si on a une vision comme ça... C'est un point de vue, ma foi, mais c'est pas, nous, on ne défend pas celui-là. C'est pas un mal, forcément, de couper un arbre. Si derrière, on en replante un, ou s'il y en a un autre qui le remplace, ou si c'est pas un mal, parce que, ma foi, on consomme du bois, hein, que ce soit l'ameublement, la charpente, se chauffer, et on a besoin de bois, c'est une matière première renouvelable, c'est pas grave d'en couper. Et donc, un de nos rôles, ça peut être d'expliquer ça.
Ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y a plus de service public, en fait.
Ah ben, de moins en moins, oui. Ou alors, c'est le service public des coupeurs de bois, quoi. La perte de services publics, ici on a la campagne, on la vit vraiment en plein, quoi. Il y a des menaces sur le collège, la poste, les postes, on sait que ça ferme dans tous les villages. Il y a des menaces sur la perception aussi. Donc on se plaint que la désertification, on se plaint des difficultés de vivre, mais on fait tout pour faire mourir les campagnes, quoi, finalement.
Voilà un petit banc devant un magnifique point de vue. la forêt en contrebas.
C'est un peu l'inverse de ce qu'on voyait tout à l'heure depuis chez moi, puisqu'on voit mon village au fond, là-bas. Parfois, avec les collègues, quand on travaille et qu'on mange sur le terrain, ça nous arrive. Eh ben, on préfère venir dans des coins comme ça, il y a un beau point de vue. C'est sympathique. On est en train de creuser un peu notre propre tombe. À force de se concentrer que sur les activités qui rapportent de l'argent, on va nous dire, bah, écoutez, pour faire ça, vous pouvez être moins nombreux encore, puisqu'il y a plein de choses que vous ne faites plus. Donc, on a déjà supprimé beaucoup de postes, mais on va continuer à en supprimer, quoi. Et demain, peut-être qu'on ne s'occupera plus que de marquer des arbres, puis les vendre, et ça sera tout, quoi. À 50 mètres d'ici, là, cet automne, je croise un aphogiste. Donc, l'aphogiste, c'est quelqu'un qui vient faire son bois de chauffage, hein. Donc, il me dit, oh, ben, la forêt, elle a bien changé. Alors, je me dis, qu'est-ce qu'on va encore me reprocher? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, mais c'est vrai que depuis un certain temps, vous faites des travaux un peu plus efficaces. Il dit, on voit la jeunesse pousser, ça fait plaisir, on voit que la forêt se renouvelle, et c'est positif. Et ben, j'étais enchanté, quoi.
Alors là, on arrive où?
Eh bien là, on arrive dans une parcelle, c'est la parcelle 11. Donc cette parcelle, eh bien, je l'avais programmée en travaux l'année dernière. Donc les travaux ont eu lieu cet été. Donc le but, c'est de dégager un petit peu les semis résineux qu'on a besoin pour un petit peu modeler la forêt, voilà, pour qu'on ait les plus beaux arbres possibles, quoi, en fait. Voilà. Avant, on mettait en route les ouvriers en leur donnant le consigne le matin, hein, avant qu'ils démarrent. Tac, tac, tu me fais ça, tu fais ci. Maintenant, on fait une fiche de consigne pour expliquer les travaux qu'on veut. Mais sur une fiche de consigne, c'est impossible de tout expliquer. Forcément, on loupe une bonne partie des explications. C'est quand même assez compliqué, quoi. Et donc, cette année, c'est des ouvriers qui sont venus là. Bah, ma foi, ils ont... C'était des bosseurs, ils ont voulu intervenir, etc. Mais ils ne sont pas habitués à travailler dans les forêts d'altitude. Et donc, moi, j'ai été prévenu quand ça commençait, mais on n'est pas censé venir surveiller les travaux. Ce n'est plus notre rôle. Je suis arrivé par ce même chemin où on est, là. Ça ne va pas, là. Je suis allé voir la parcelle 11, mais il n'y a plus un feuillu, quoi. Vous avez tout coupé. On est habitué à faire comme ça, on a fait comme... Et voilà. Maintenant, on se retrouve avec une parcelle, on peut le voir, hein. Et ils ont coupé quasiment tous les feuillus. Quand les travaux sont loupés, en forêt, ça a des conséquences sur une longue période, quoi. Le reproche qui était fait aux agents avant réforme, c'était qu'on passait de trop de temps à surveiller les travaux. Alors que ce n'était pas le cas. Je veux dire, on mettait les ouvriers en route, ça prenait un quart d'heure. Ensuite, on repassait un jour ou deux après. Et puis voilà, c'était fait. Y avait pas besoin on passait pas notre journée derrière les ouvriers en disant faut couper celui-là, celui-ci. Les ouvriers, c'est les professionnels aussi, ils savent ce qu'ils ont à faire. Il suffit qu'ils aient des consignes claires et ils fassent le boulot, quoi. Quand on a des consignes sur une feuille de papier qui sont données par quelqu'un qui connaît pas la forêt, etc., c'est sûr qu'il y a des loupés à chaque fois, quoi. Maintenant, ça nous affecte assez profondément, puisqu'on n'a plus de relation directe avec nos collègues ouvriers, donc il y a un petit peu de tension, hein. Quand un chantier se passe mal, c'est plutôt du rentre-dedans que... Et le fait de ne plus s'occuper des travaux, on a l'impression de perdre une partie de ce qui faisait l'âme du métier de forestier, quoi.
Votre femme, qu'est-ce qu'elle dit des évolutions? Vous lui en parlez, votre épouse?
Elle est bien au courant. Elle a vu les changements, voilà. Elle voit la présence au bureau. Donc, elle a bien compris que le travail a changé. Elle voit les relations avec la hiérarchie qui sont beaucoup moins fraternelles qu'avant, quoi. Hein. C'est vrai que c'est un peu tendu. Maintenant, le travail de forestier débordait beaucoup sur la vie de famille. Et c'était pas un problème pour personne parce que ça se passait bien. Il y a 10 ans en arrière, quand je suis arrivé ici avec l'équipe, là, je suis arrivé dans une équipe, il y avait 4 collègues qui avaient 40, 45 ans à l'époque. Tout le monde s'entendait bien. On avait un chef qui était d'aplomb, qui était jeune, qui venait d'arriver, mais ça allait vraiment bien. Tout le monde travaillait dans la même optique. Ça veut dire la forêt. C'était pas est-ce que je vais rapporter de l'argent, machin. C'était vraiment pour le bien de la forêt. Donc la vie de travail débordait largement sur la vie de famille, mais c'était pas un problème. On travaillait avec des copains, c'était la bonne ambiance, etc. C'est pas la même chose, puisque les équipes se sont agrandies, il y a des gens qu'on voit moins. On sent qu'il y a quand même un lien, le lien qui s'est cassé, quoi. couper plus, c'est pas une fin. Enfin, c'est une fin en soi, si, mais ça durera pas longtemps, en fait. Hein. Ça peut pas durer éternellement. Pendant quelques années, ah ben, on peut assainir les finances, mais ceux qui vont venir derrière, comment ils vont faire? Qu'on aura coupé un tiers des bois, comment on va faire? On va pas toujours couper plus, on va pas avoir des forêts comme ça, avec des petits diamètres, etc. Non, c'est pas... Après, je pense qu'à la tête de l'ONF, c'est pareil, le directeur de l'ONF, il a un contrat d'objectif aussi. Et puis voilà, le problème, il vient de plus haut, c'est une volonté politique de l'État, c'est tout, quoi. On ne veut pas mettre de moyens en forêt, on voudrait qu'on soit autosuffisant. Alors ma foi, nous, c'est facile, il y a du bois, eh ben, on tape dans le capital et puis on verra. Hein, voilà, le problème de nos directeurs, le problème des politiques... C'est que le long terme, c'est 5 ans, c'est 10 ans. 10 ans, c'est déjà énorme. Alors que nous, c'est 120 ans. Quoi. Voilà, on n'a pas du tout les mêmes échelles et pas du tout les mêmes valeurs. Et si on coupe du bois aujourd'hui, s'il y a eu des plantations un peu partout, si on arrive à couper du bois, c'est parce que dans le passé, il y en a qui ont fait des efforts, d'investissements, etc. La forêt, elle n'a pas besoin de l'homme. Hein, mais l'homme, il a besoin de la forêt, par contre.
Adieu, verdure. Je vais faire ma cure d'intoxication. Salut la ville agonie de la civilisation.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et l'Agent Patrimonial, un reportage de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Annabelle Brouard, au mixage un coup de main de Martin Delafosse et l'attachée de production, c'est bien sûr Sandrine Chaperon. Merci à Jean-Loup Audi, notre agent patrimonial, à Philippe Berger, à François Citré et à tous les forestiers que nous avons contactés pour réaliser cette émission. Vos réactions, vos suggestions, vos idées, tout ce que vous voulez savoir ou nous dire, c'est sur notre site internet, toujours franceculture.com à la rubrique Les Pieds sur Terre. Vous pouvez poster des commentaires ou nous envoyer directement des courriels. Demain, dans Les Pieds sur Terre, nous passerons quasiment toute la nuit dans une hutte de chasseurs dans le nord de la France.
Si tu veux, je travaillerai tes champs. Adieu, verdure. Adieu, verdure. Adieu. Adieu. Adieu.